Donc, bienvenue à cette session des journées d'économie consacrée au chômage en Europe. Hein, le chômage en Europe, l'autre divergence. Alors, ne me demandez pas quelle est la première divergence, mais on va vous parler de la seconde, c'est-à-dire celle du chômage en Europe. Alors, juste un mot avant de présenter les intervenants de cette session. Alors, le moment, donc, on a l'animateur de cette session. Pourquoi cette session est toujours le temps de l'économie? C'est que, on a assisté à un des petits produits qui ont pris du temps depuis 1919, mais ce qui est très frappant, c'est que on a assisté à un retour du PIB dans la plupart des pays, mais l'impact qui est très fort sur le chômage, comme le capital de France, qui sent que la divergence sur plusieurs pays en termes de chômage de pauvreté est particulièrement forte. Et la rencontre aussi quand on compose dans le système de l'entreprise. Alors, il y a des pays en train de des directions qui sont très fortes, qui ont des choses qui sont passées, comme aux États-Unis ou en Espagne, et puis dans d'autres pays, on a des types de flexibilité plus pleines, avec sur le gestionnement d'emploi. Puis, on a aussi une surréaction par rapport à ce qui se passait au début de notre passé. On va s'en tenir ici à l'Europe et on va essayer de mieux comprendre en fait cette divergence des réactions des différents pays au sein de l'Europe. Donc, il faut toujours parvenir à cette question qui est précisément un peu le point de vue qui s'attache à des années particulières. Comment la Commission a fait une intervention en tant que chef de l'État, qui est économiste au PIB, et qui notamment a peut-être donné une étude qui a été publiée sur les effets de la crise énergétique, notamment sur les effets, pas seulement en termes d'inégalité du côté de l'âge, mais aussi probablement en termes de revenus et de conditions de travail.
Thank you.
vraiment par rapport à son système d'un peu. Donc, c'est un système d'un très bon. C'est vrai que notre pays est un petit peu plus difficile à l'intérieur de l'emploi. Pour voir un petit peu exactement quelle est les différentielles de performance qui sont dans les pays européens, comment l'emploi j'ai une petite très d'accord avec Jérôme, c'est l'impact vraiment de la crise en termes de baisse de la croissance du PIB. On a vu ici, c'est un problème en peu. Le croissant de l'Union européenne, une chute brutale de la croissance du PIB, avec des performances particulièrement négatives pour les bases. C'est de voir finalement que les ajustements d'emploi par rapport au poste de PIB n'ont pas été les mêmes à l'évangile. On voit aussi que les ajustements d'emploi sont fondamentaux, mais surtout en Espagne, en Irlande, les ajustements d'emploi ont été particulièrement importants. Et ça, c'est très joli parce qu'on a essayé de faire une corrélation entre la baisse de croissance du PIB. Et c'est un peu plus puissant finalement à ce sujet. Gracias. chrétienne, toutes les femmes ont perdu du souci dans le recours à la contemporaine, cela a permis de recourir à la permis de éviter le traitement des fonctionnaires, mais pas suffisamment pour éviter la politique de l'emploi pour les générations futures. Je vais aussi revenir sur un graphique qui est assez significatif. On a essayé de calculer finalement jusqu'à quel point la réduction du travail peut permettre de limiter les licenciements. Et on a essayé de voir quels sont les pays qui ont eu recours à la réduction du travail pour éviter les licenciements. Et vous voyez aussi que pour ce graphique, on a un ajustement d'emploi assuré par une réduction du nombre de temps de travail. Et vous voyez ici sur la droite, donc, vous verrez sur la droite des pays où finalement les heures de travail ont été réduites plus, ceci de l'Allemagne. On a tout fait, c'est vrai que dans le pays de l'Allemagne le plus, 90% des étudiants européens avaient été évités par les réductions de travail. Alors que d'autres pays qui n'avaient pas pu former des réductions de travail n'ont pas pu avoir accès à ce type de formation. C'est important parce que ce sont justement ces pays-là qui ont permis, qui ont réussi à réduire le système de l'emploi par rapport à la crise. Le plus important, c'est justement, comme je disais avant, de former l'institutionnel au niveau de la crise. On va essayer de faire un peu. Oui, on va. Je vais simplement vous sur les graphiques sur les salaires réels. Mais ici, vous voir aussi en fonction du ajustement des salaires réels, quelle est l'histoire qui se profilait par rapport à la crise. Effectivement, le salaire, les augmentations de salaire ont diminué. De nombreux pays, l'augmentation des salaires réels ont diminué. Et un certain nombre de salaires réels ont diminué. C'est intéressant de voir que ce sont les mêmes pays qui ont des fonds justement dans ce domaine, comme à nouveau les pays de centrale européenne, l'Espagne et l'Irlande, qui ont vu leur salaire baisser dans les liens plus exposés. On voit aussi que la crise est l'augmentation des salaires. L'augmentation de la proportion des salariés par salaire. L'augmentation des inégalités salariales entre les groupes qui sont dues principalement au gel des salaires minimums dans la crise. Donc, vous voyez que sur le marché des salaires aussi, il y a eu un certain nombre d'ajustements qui sont importants et qui expliquent aussi les inégalités de croissance sur le marché du travail. Et je voudrais conclure par en mentionnant trois paradoxes de la crise qui est extrêmement important. Tout d'abord, sur le niveau de l'argent. Il est intéressant de voir que certains pays qui avaient privilégié la crise de l'activité de travail, par exemple l'Allemagne, avait facilité son marché du travail, avec le recours, par la temporaire, peut-être en ordre partiel, le médium, etc. C'est intéressant de voir que ces pays-là, finalement, pendant la crise, ont eu un recours à ce gestion de l'enfer. Et les sentiments ont eu recours à une autre facilité, comme la réduction du temps de travail. Il est intéressant de voir aussi que des pays comme l'Espagne, qui ont eu recours à la flexibilité externe, l'augmentation du contrat de travail, sont ces mêmes pays-là qui ont vu leur taux de chômage augmenter le plus pendant la crise. D'où une approche sociale très importante. Le paradoxe, c'est que, après la crise, la plupart de ces pays ont recours à nouveau au modèle de flexibilité externe. Donc, il y a un paradoxe ici, le modèle de flexibilité interne qui semble être pendant la crise, mais un recours toujours plus fort à des problèmes de flexibilité externe. Le deuxième paradoxe, c'est que nombre de pays ont eu des recours à des programmes spécifiques pour aider les travailleurs vulnérables, mais qui ont eu un impact limité, après tout. De l'importance, parmi les efficacités de ces programmes, l'impact social de la crise est encore plus important. Mais maintenant, il y a une deuxième vague de fonds au sein de la crise. Les partis de l'Afrique, les coupes budgétaires dans le secteur public, qui font certainement un impact au niveau social, c'est important. Le troisième paradoxe, c'est que la crise a montré l'importance des facteurs humains, le capital humain, l'importance de l'éducation, de la formation. Dans l'âme, il y a un certain nombre de formations qui est efficace. Et paradoxalement, maintenant, en 2010, la plupart des pays ont décidé de mettre en place des coupes importantes en matière budgétaire, de couper justement tous les financements du secteur public, le secteur de l'éducation, de protection sociale. Et certainement, là, il y aura un impact important en matière de capital humain et en matière de qualité de l'emploi. Et je voudrais vraiment conclure sur cet aspect-là. Il est important, certes, de voir un petit peu quels sont les ajustements à la crise en termes de flux d'emploi, en termes de quantité d'emploi. Mais il est très important de voir aussi l'impact sur la qualité de l'emploi. Donc, finalement, quelle sera la capacité des chômeurs d'aujourd'hui et de demain à retrouver un travail sur le marché du travail et aussi trouver un travail qui soit de qualité et aussi qui soit en rémunération tout de même importante. D'où l'importance justement de mettre l'accent sur aussi tout ce qui est qualité de l'emploi qui finalement est l'agenda qui se donne au niveau européen. Voilà, je vais te conclure ici. Merci. Merci. Il y a une autre chose à prendre en compte, on a bien vu effectivement un certain nombre de points les ajustements différents sur les différents pays et puis comment chaque pays, donc on a commencé à expliquer comment chaque pays articule sa différence, sa flexibilité externe, sa flexibilité interne, sa flexibilité extérieure, avec des modèles qui, forcément, le modèle intérieur, puis là, c'est un peu le genre de paradoxe qui, quand il y a une année, il y a des pays qui sont engagés fortement pour faire un peu de flexibilité, finalement, on va pouvoir montrer des flexibilités dans la crise. On peut pas trop faire des situations de travail, quand il y a une crise. Dans le détail, il y a beaucoup de conditions. On commence à parler de la France, et puis ensuite, on peut rentrer dans le détail. C'est juste par la matière.
Bonjour, le support de la présentation est disponible sur le site du Conseil de la Ville économique. Vous pouvez retrouver le détail de cette présentation et tous les éléments démontrant ce que je vais vous dire. Et le titre du rapport que nous avons coécrit avec Étienne Vansmer s'intitule « Les mobilités des salariés ». Donc notre objectif c'est de montrer que pendant la crise, on a vu une grande flexibilité du marché du travail français. Et que ce marché du travail s'est flexibilisé, alors c'est un néologisme, mais que la flexibilité a augmenté par rapport à ce qu'on avait pu voir durant les années 90, qui était la date de la dernière récession française. Et je voudrais en tirer les leçons pour l'avenir, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de cette grande flexibilité, est-ce qu'elle doit s'accompagner de nouvelles politiques économiques et est-ce qu'on peut s'attendre à une poursuite de l'augmentation du chômage durant les prochains trimestres ou est-ce qu'on est sur un plateau. En ce qui concerne le marché du travail français, on a vu près de 600 000 destructions d'emplois depuis le début de l'année 2008, c'est-à-dire entre le deuxième trimestre 2008 et la fin de l'année 2009, c'est-à-dire que l'emploi salarié marchand a reculé de 3,5% durant cette période, quand le produit intérieur brut a reculé de 3,9% durant la même période. Donc, l'emploi salarié marchand s'est ajusté au cycle économique et principalement par la baisse des emplois intérimaires, puisque 31% de ces destructions d'emplois sont des destructions d'emplois dans l'intérim exclusivement. Donc, c'est très important et c'est parce que l'emploi salarié temporaire s'est développé que le marché du travail français est devenu plus flexible. On a fait plusieurs études et plusieurs calculs, donc vous pourrez pourrez voir le détail, mais qui montre que la variation du nombre de chômeurs par rapport à la variation d'activité qu'on mesure par la valeur ajoutée a été multipliée par 5 entre les années 90 et maintenant. Ça, c'est un constat qui me semble très très important parce qu'on entend beaucoup des commentaires concernant la rigidité du marché du travail français et il me semble que les choses ont beaucoup évolué de ce point de vue-là. Alors, quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés? C'est bien sûr le secteur industriel. Parce qu'une fois qu'on a identifié que l'ajustement s'est fait à peu près d'un tiers par les emplois temporaires, on peut réaffecter ces emplois temporaires en fonction des différents secteurs. Il y a trois grands secteurs, l'industrie, les services et la construction. Et quand on réaffecte l'intérim dans ce secteur, on se rend compte que les destructions d'emplois ont concerné à hauteur de 61% l'industrie, 26% les services, 13% la construction. Et paradoxalement, c'est dans la construction que l'ajustement a été finalement le plus lent et n'a pas fini d'avoir lieu selon nous. C'est ce qui explique que nous attendons durant les prochains trimestres une poursuite des destructions d'emplois dans le secteur de la construction, alors que dans les autres secteurs, on voit dès à présent une augmentation de la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises ont pu ajuster si rapidement l'emploi à la valeur ajoutée au cycle économique durant la crise, que dès à présent, elle recommence à avoir une productivité positive. C'est-à-dire qu'elle n'a plus, normalement, à moyen terme, de raison de continuer à licencier. Donc ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Alors, quelles sont les raisons de cette grande flexibilité du marché du travail français? La principale raison, c'est bien sûr l'augmentation de la part des contrats temporaires dans l'emploi salarié. Le pic a été observé en 2007, puisqu'en 2007, on a remarqué qu'à peu près 16% d'emplois salariés étaient du fait de contrats temporaires, contre 6% à peu près dans les années 80. Et aujourd'hui, d'après 80% des entrées dans l'emploi sont des entrées en emploi temporaire. C'est une des raisons de sa flexibilité. Alors, il y a une étude de la Banque Centrale Européenne qui montre que c'est un processus qui s'est observé dans l'ensemble de la zone euro et le développement des contrats temporaires s'est fait au dépens de l'emploi permanent. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait quand on a mis en place cette politique d'ajustement plus grand du marché du travail au cycle économique, contrairement à ce qu'on pensait, l'emploi temporaire a remplacé l'emploi permanent dans la plupart des pays de la zone euro qui ont utilisé cette façon de faire. Donc ça pose un problème, même si on a remarqué que l'INSEE a fait un travail formidable pour montrer que la probabilité d'entrer dans l'emploi permanent pour un CDD est plus forte que pour un chômeur. C'est-à-dire qu'un salarié, un contrat à durée déterminée, a trois fois plus de chances de trouver un emploi stable qu'un chômeur. Et un intérimaire a deux fois plus de chances en France de trouver un emploi stable qu'un chômeur. Ça veut dire qu'en fait, si les contrats temporaires peuvent avoir des effets pervers, et je vais les expliquer, ça permet d'entrer sur le marché du travail, d'accroître sa chance de trouver un emploi permanent et stable. Alors, si on peut voir que la France s'est rapprochée des États-Unis plus que de l'Allemagne en flexibilisant son marché du travail, et que ça participe à une stabilité aujourd'hui de la hausse du taux de chômage, cette volonté de flexibiliser le marché du travail peut avoir des effets pervers. Et ce qu'on remarque, c'est que, effectivement, ça peut se traduire par une dégradation de la productivité au niveau macroéconomique. Pourquoi? Parce que si vous enchaînez des jobs et si vous êtes en contrat temporaire ou intérimaire, vous avez par exemple moins accès à la formation. Donc au niveau macroéconomique, ça signifie que vous allez voir votre capital se dégrader et à moyen terme, si on accompagne pas mieux ces salariés temporaires, ça peut être contre-productif, puisqu'on a ce qu'on a gagné avec la flexibilité du marché du travail, on va le perdre à moyen terme, puisque le capital humain va être dégradé, et donc on aura une productivité qui va être plus faible, et on ne parviendra pas à accroître notre productivité, notre croissance et notre pouvoir d'achat à moyen terme. Donc pourquoi on n'arrive pas à accompagner ce mouvement de flexibilité du marché du travail alors qu'on avait décidé de mettre en place une forme de flexisécurité? Parce qu'on s'est vraiment concentré sur la flexibilité et on n'a pas souhaité armer les salariés pour qu'ils aient le choix de passer d'un secteur à l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que le salarié a fait plusieurs missions, il se retrouve à avoir du mal à s'adapter à un nouveau secteur, à un nouvel emploi, parce qu'il n'a pas disposé de formation générale. On l'a souvent formé. Alors, soit c'est un salarié dans l'emploi, et dans ce cas-là, on s'est attaché à former pour son emploi, et non pas pour qu'il soit capable de s'adapter à un autre emploi, à une entreprise. C'est ce qu'on appelle la formation générale. Et là, la France est vraiment la dernière de la classe. Pourquoi? Parce que le taux de formation générale en France, le taux de formation certifiante ou diplômante qui permettrait aux salariés de pouvoir être mobile, de pouvoir choisir sa mobilité, est le plus faible pays de l'Union européenne. Seuls 1% des formations en France, des formations continues, je ne parle pas évidemment des formations universitaires et des liens qui sont là, mais des formations continues, seuls 1% sont diplômantes ou certifiantes. Donc ça veut dire que le salarié subit l'évolution économique et n'a pas les moyens de décider quand il peut tenter de trouver un autre emploi dans un autre secteur ou dans une autre entreprise. Donc, une des propositions que nous faisons pour justement accompagner ce développement des marchés du travail français, c'est d'instaurer un bonus-malus qui inciterait les entreprises à proposer des formations certifiantes et générales. On comprend bien pourquoi. Il est évident que l'entrepreneur a plutôt intérêt à améliorer votre productivité au poste de travail, c'est-à-dire à faire en sorte que vous ayez des formations pour que vous puissiez être meilleur dans votre job. Mais ensuite, on comprend bien que c'est difficile pour l'employeur de se dire qu'il va vous former, donc pendant ce temps-là, vous ne travaillerez pas, pour être meilleur chez le concurrent. On comprend bien que c'est quand même un problème extrêmement difficile au niveau macroéconomique et les théories économiques et techniques très bien. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut qu'il y ait une incitation, c'est-à-dire que les entreprises qui participent à développer la formation générale des salariés et donc leur donner le choix d'être mobile, et devraient voir, par exemple, leur cotisation au chômage baissé, parce qu'on sait aussi que si les salariés ont une meilleure formation générale, ils vont moins se retrouver moins fréquemment, ils vont se retrouver moins fréquemment au chômage. Donc, de fait, la collectivité pourra y retrouver son compte. Donc, ça, c'est une première proposition. Nous avons une deuxième proposition pour accompagner cette flexibilité du marché du travail, c'est de mettre en place des compléments salariaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, vous travaillez dans l'automobile et vous savez que c'est un secteur qui va devoir se restructurer, vous pouvez essayer de trouver, de développer un autre métier. Mais pour cela, ça veut dire qu'il faut forcément redémarrer à un niveau inférieur au niveau auquel vous êtes dans votre entreprise actuellement. Et nous, on considère que si on veut que la collectivité accompagne la flexibilité et que le salarié soit mieux armé, que ce ne soit pas le poste, mais le salarié, il faut permettre au salarié de pouvoir changer de métier sans que son salaire baisse significativement et lui donner les moyens et le temps d'apprendre ce nouveau métier pour justement éviter qu'il se retrouve au chômage et qu'ensuite il n'ait plus les moyens de pouvoir passer d'un secteur à l'autre si effectivement l'économie est difficile. La troisième proposition que nous faisons, c'est justement de permettre aux contrats temporaires, c'est-à-dire aux personnes en contrat à durée déterminée et en intérim, d'avoir le même accès aux formations, d'avoir le même accès à un logement, d'avoir le même accès à un prêt bancaire, par exemple, que les autres salariés. Parce que si effectivement c'est un moyen d'entrer sur le marché du travail, ils ne doivent pas être pénalisés de cette situation, parce que ça participe justement à une meilleure réactivité de l'ensemble de l'économie française au cycle international. Donc il faut les accompagner. Alors qu'est-ce qu'on propose concrètement? C'est par exemple de leur perte de leur, ces salariés, de leur permettre de bénéficier de ce qu'on appelle le contrat de transition professionnelle. Donc c'est de garder une partie de leur salaire justement pendant un an ou plus et de bénéficier de cette formation. Et on considère que ces contrats de transition professionnelle qui aujourd'hui ne sont ouverts qu'aux licenciés devraient être ouverts aux intérimaires et à ceux qui sont en contrat à durée déterminée pour eux aussi, s'ils le souhaitent, évoluer, découvrir un autre métier ou justement participer à leur évolution salariale. Donc voilà les trois grandes pistes que nous lançons pour faire en sorte que cette flexibilité qui est accrue ne se traduise pas à moyen terme par une dégradation générale de la compétitivité française et puisse justement se traduire par une augmentation de la compétitivité, mais par le haut. C'est-à-dire pas simplement par le coût du travail, mais par une augmentation de la productivité et que les salariés français qui sont les plus productifs du monde à avoir travaillé restent productifs et donc puissent continuer à financer leurs systèmes sociaux et les choix collectifs qu'ils ont faits. Alors, pour lancer le débat, et je sais que c'est un débat extrêmement vif, je voudrais dire que cette réflexion s'inscrit aussi par rapport au fait que le coût du travail français n'est pas si élevé que ça. Et on le met souvent en avant pour expliquer pourquoi la France exporte moins que l'Allemagne. Mais quand on regarde en niveau, le coût du travail français est proche du coût du travail allemand. Et si, durant ces dernières années, effectivement, il a augmenté moins rapidement, aujourd'hui, ils sont à peu près au même niveau. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur comment faire en sorte qu'on reste productif et comment faire en sorte qu'on puisse augmenter notre croissance par le haut et pas simplement par le prix du travail. Alors, pour conclure, je souhaiterais donner une perspective plus conjoncturelle aux prévisions en matière de marché du travail. Et on voit bien que si le marché du travail s'est très rapidement ajusté, ce qui explique aujourd'hui que les secteurs comme l'industrie ou les services principaux marchands aient retrouvé une forte productivité, le ralentissement américain pourrait peser sur la zone euro durant les prochains trimestres. Et on s'attend à ce que le chômage ne recule pas avant le milieu de l'année 2011, notamment parce que le commerce mondial va se stabiliser, donc les échanges mondiaux vont moins attirer la croissance. Deuxièmement, les plans de relance qui sont encore très actifs aux États-Unis et en Allemagne vont s'atténuer et vont disparaître à la fin de l'année 2010. Donc là aussi, ça va peser sur la croissance. Et enfin, le dernier facteur qui nous fait attendre un ralentissement de la croissance, c'est le cycle de stock. Parce que vous savez que l'activité a été complètement arrêtée avec la récession et ça s'est traduit par un déstockage des entreprises. Donc ce déstockage a pesé sur l'activité économique. Ensuite, petit à petit, les entreprises ont moins de stockés. Et ça, ça a un effet extrêmement important sur la croissance. 80% de la croissance qu'on observe en zone euro depuis la fin de l'année 2009 s'explique par les stocks. 60% de la croissance américaine. Donc on voit bien que quand ce cycle de stock va s'atténuer à la fin de l'année 2010, la croissance sera probablement moins dynamique. Il ne sera pas de nature à entraîner une baisse significative du taux de chômage. Donc probablement, le taux de chômage va rester à un haut niveau avant que la croissance soit auto-entretenue, c'est-à-dire que la demande reparte et que la consommation des ménages soit plus dynamique, ce qui n'interviendrait pas avant le milieu de l'année 2012. Donc voilà les principaux éléments que j'ai souhaité lancer, les principaux débats. Premièrement, la flexibilité du marché du travail français s'est accrue et s'est rapprochée de la flexibilité américaine, mais nous n'avons pas encore fait ce qu'il fallait pour que ça ne se traduise pas par une dégradation du capital humain. Or, c'est une des forces de la France, vraiment, son capital humain et la productivité horaire de sa main-d'œuvre.
Merci.